Bonjour, chers écouteurs.
L'invention de la magie en Grèce.
Rejeton des dieux, Ulysse le rusé, pourquoi, malheureux, as-tu quitté la lumière du soleil pour descendre vivant dans cette demeure sans joie?
Je viens t'interroger, Tirésias, et connaître ma destinée.
Éloigne ton épée, laisse-moi boire le sang de cet agneau, et je te ferai connaître la vérité, Ulysse.
Dans la Grèce archaïque, le devin, c'est un maître de vérité. Ainsi, Tirésias, par exemple, est un personnage considérable et crédible. Ulysse attend beaucoup de lui quand il va le visiter aux enfers. La divination relève du système nerveux central de la religion grecque. La magie, c'est autre chose. Le mot lui-même vient d'ailleurs, il n'apparaît clairement dans le vocabulaire qu'au 5e siècle avant notre ère. Les meilleurs esprits classiques la condamnent, Hérodote, Hippocrate, Socrate. Mais voilà, dans sa recherche de connaissances de plus en plus étendue, l'homme du 5e siècle est tenté aussi par les magiciens qui se sont mis à leur propre compte et à leur façon, lisent les indices et résolvent les énigmes. Plus tard à Rome, on retrouvera un peu la même césure. Le mot magus n'apparaîtra que tardivement. Les magiciens seront regardés comme un corps étranger et les citoyens vertueux feront néanmoins appel à eux. C'est curieux, est-ce qu'on pourra jamais identifier un moment d'invention de la magie ou faut-il abandonner aussi cette croyance?
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Marcello Carastro, bonjour.
Bonjour.
Un moulin dans l'Allier ouvre une grande exposition qui va durer presque un an, qui porte un titre peut-être accrocheur, ensorcelé, la magie dans l'Antiquité grecque et romaine. Aussi, avons-nous fait appel à Marcello Carastro, qui n'a pas de rapport direct avec cette exposition, mais a publié dans une autre ville de nos belles régions, à Grenoble, chez Jérôme Milon, plusieurs livres consacrés à ces sujets, dont « La cité des mages ». C'est bien ça, Marcello Carastro.
Absolument.
Alors, il faut que je dise que vous êtes italien d'origine.
Oui.
Que vous êtes un historien assez peu conventionnel, parce que, au fond, vous auriez pu aller faire de l'étude de la Grèce ancienne, là où on en fait beaucoup maintenant, dans les universités américaines. Et une des raisons pour lesquelles vous avez choisi Paris, c'est que Paris est lié à l'Afrique et à l'ethnologie africaine.
Absolument. Depuis mes études de maîtrise, j'ai découvert l'univers universitaire français, notamment celui de l'École des études en sciences sociales. J'ai eu la chance de connaître des ethnologues français comme Michel Cartry, qui sont parfois trop peu connus, malheureusement, mais qui se sont inscrits dans le sillage de Marcel Mauss, de Marcel Griol aussi, et qui ont ouvert tout un pan de la réflexion sur ce que vous définissez comme le système nerveux central donc de la religion, la divination par exemple. Donc, et avec des ethnologues comme Michel Cartry, j'ai donc été initié à l'ethnologie en essayant de mettre en dialogue avec l'histoire, puisque de formation j'étais philologue.
Philologue, on va parler des mots tout à l'heure. Donc on a compris peut-être qu'il vous arrive d'aller travailler en Afrique aussi.
Absolument.
Au Burkina Faso.
Absolument. Cet été, j'ai eu la chance de pouvoir y partir, donc en équipe, avec des doctorants qui travaillaient avec moi. Et l'intérêt de travailler sur le terrain, c'est de poser de nouvelles questions à nos textes anciens. Donc, j'ai mieux compris Homère en écoutant des chants de deuil lors de cérémonies d'enterrement donc, au Pays Nouna, donc au Burkina Faso. Et c'est une expérience qui permet d'irriguer la pensée historienne. C'est pour cela que j'invite aussi les nouvelles générations à s'initier à ce genre d'approche.
Le philologue écoute de très près les mots. On verra que c'est une de vos originalités, mais ce n'est pas la seule. Tout à l'heure, toutes oreilles ouvertes, on entendait Tirésias. Alors Tirésias, c'est la figure presque idéale du maître de vérité qu'est le devin dans la Grèce archaïque. C'est quelqu'un qui lève le voile sur une part de la révélation et qu'on écoute donc. la révélation, Tirésias en fait part à ses contemporains parce que lui est en contact avec les dieux.
Absolument. Le divin est une figure centrale pour comprendre la façon dont on conçoit le divin aussi en Grèce ancienne. Le divin n'est pas seulement un passeur, n'est pas seulement un médiateur dans cet univers religieux. Il est quelqu'un qui permet d'ordonner le monde aussi. Je vous rappelle que lorsque une cité comme Athènes doit prendre une décision cruciale, s'y abandonner la ville ou pas, face à l'invasion perse, on va consulter l'oracle de Delphes. Et c'est donc on va écouter la réponse de la Pythie qui doit interpréter la volonté divine. Et donc les devins sont des figures centrales pour organiser la vie en société. Ils ne sont pas juste des révélateurs de choses cachées.
Mais Tirésias va être consulté dans la tragédie de Sophocle, d'Iproie, dont on va entendre deux extraits, à un moment décisif de la vie, non pas d'Athènes, mais de Thèbes. Cette fois, le roi le presse de questions.
Toi qui connais l'ombre et la lumière, les mystères de l'homme et les secrets des dieux, Tirésias, aide-nous. Consulte le vol des oiseaux ou tout autre moyen, mais aide-nous. Sauve-nous. Sauve-toi, sauve-moi, sauve cette cité qui se meurt. Notre vie est entre tes mains. N'est-il rien de plus noble au monde que de servir et sauver les hommes ?
Terrible est le savoir quand ce savoir est inutile.
Si tu sais quelque chose, ne nous fuis pas. Révèle-nous la vérité. Tous, nous t'en supplions.
Vous êtes si loin du vrai. Ne m'oblige pas à provoquer mon désastre et le tien.
Quoi ? Tu sais la vérité et tu refuses de la dire ? Ne vois-tu pas que c'est trahir ta cité ?
Je vais éviter ton malheur et le mien. Inutile de me harceler. Je ne parlerai pas.
C'est la traduction de Jacques Lacarrière, une réalisation pour France Culture de Georges Perrou avec Gérard de Sarthe dans le rôle du roi et dans le rôle du devin Jean Levray. Quels sont les moyens dont dispose le devin ici, les questions de la consultation du vol des oiseaux ?
Bien, il y a plusieurs techniques divinatoires en Grèce ancienne. Tirésias est connu pour sa capacité d'ornithomancie, donc sa technique qui repose sur l'observation du vol des oiseaux, parfois même l'écoute du cri des oiseaux. Tirésias est connu aussi par sa capacité à interpréter les signes de différentes natures que les dieux envoient aux hommes. Il a une forme de savoir de type révélé.
Le problème là avec Œdipe, c'est qu'Œdipe lui-même est capable de lire les indices et les signes.
Absolument.
Il a résolu les énigmes.
Absolument. Et la pièce de Sophocle est construite sur ce conflit en fait, entre des formes de savoir, une nouvelle forme de savoir, celle d'Œdipe, qui revendique un nouveau pouvoir contre le pouvoir traditionnel des devins. Alors, c'est justement, si on s'intéresse au mot, le mot Œdipe signifie pied enflé, mais c'est Œdipe, Œdipus, c'est aussi celui qui sait, Œida. Donc, c'est lui qui sait, qui prétend savoir plus que le devin.
Alors, il représente un savoir dont vous allez nous expliquer qu'il est nouveau, qu'il est le fruit des hommes, et très curieusement, renversant la situation, il va traiter, parce que le dialogue entre Tirésias et lui va mal se passer, Tirésias de tous les noms d'oiseaux, enfin de tous les noms de magiciens, de noms désagréables.
Absolument. Dans ce conflit de savoir, Œdipe ne supporte pas que Tirésias puisse avoir un savoir qui le dépasse. Et donc, il dénigre, en fait, ce savoir traditionnel relié donc à la divination par des mots qui sont des insultes, des véritables insultes. Donc, il les traite de charlatans, il les traite de
Allez, dites-le
magos,
en grec. Dites-le
de
en
magos,
grec.
Justement, magos que nous traduisons par magicien. Mais une de mes questions initiales, c'était justement celle-là. Faut-il traduire magos par magicien ? Ce n'est pas juste une question d'érudit.
On va y venir. En tout cas, dans le débat entre Œdipe et Tirésias, Sophocle, l'auteur, prend clairement parti. celui qui est aveugle, c'est pas celui qu'Œdipe traite d'aveugle. Celui qui est aveugle, c'est Œdipe, et la prédiction de Tirésias est marquée au coin de la vérité.
L'assassin que tu cherches, l'homme que tu as maudit, le meurtrier du roi Laios, cet homme vit à Thèbes. On le croit étranger, il est thébain. Mais le jour où il saura la vérité sera celui de son malheur. Il voyait, il ne verra plus. Il était riche, il sera pauvre. Il partira sur les routes, il mendiera sur un sol étranger. Il se révélera le père et le frère de ses propres enfants, le mari et le fils de sa femme, le meurtrier de son propre père. Si je mens, alors seulement tu pourras dire que je ne suis qu'un faux prophète.
Un faux prophète à Œdipe, en tout cas, le vrai devin prédit, alors qu'Œdipe croyait voir du savoir autonome et moderne des hommes d'aujourd'hui, des catastrophes. Sophocle, il a pris parti contre les magiciens.
Oui et non. Oui et non. Le savoir d'Œdipe est un savoir qui se fonde sur la conjecture. Il cherche des preuves. C'est un savoir qui revendique son autonomie, mais qui, en fait, reprend exactement la même démarche que le savoir divinatoire, qui déniche des messages dans les signes. Donc, Sophocle prend position contre cette revendication impie de la part d'Œdipe, qui finalement dénigre à tort le savoir de Tirésias. Il utilise le mot magos qu'il met à la bouche, dans la bouche d'Œdipe pour jeter du discrédit sur la figure du devin.
Alors, magos, le mot vient d'où ? Il y a quelqu'un, au 5e siècle toujours, qui s'interroge là-dessus. On a parlé de Sophocle, parlons d'Hérodote.
Oui, le mot magos apparaît au 5e siècle en Grèce, mais on connaît bien l'origine iranienne du mot, la racine mag, qui parfois est reliée par certains savants à l'idée de savoir. Donc, serait-elle une forme de savoir ? On a peu de preuves pour vérifier cette hypothèse. En tout cas, ce que nous savons, c'est que Hérodote nous présente la figure des magoi comme des figures intrigantes, des conseillers de palais qui se trompent, des interprètes des signes célestes qui se trompent, mais aussi des experts des rituels sacrificiels, par exemple, qui sont étranges aux yeux d'un grec.
Mais le magos vient de loin, quand même.
Le magos vient d'Iran, le magos vient de l'Asie, ce continent qui réserve, qui recèle des surprises aux yeux des Grecs, qui étaient quand même bien implantés, puisqu'en Asie mineure, on avait des colonies et des cités très importantes.
Enfin, cette figure interlope vient, dans toute l'Antiquité, on le verra, et à Rome aussi, de l'Orient. Et que dit Hippocrate ? On continue notre galerie des grands du 5e siècle.
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que dans cette mouvance où de nouvelles formes de savoir s'affirment au 5e siècle, le savoir médical emploie à nouveau le mot magos pour jeter du discrédit sur des formes traditionnelles de guérison. Donc, ceux qui sont censés guérir, ou en tout cas soigner, la maladie sacrée que nous identifions avec l'épilepsie, donc ceux-là sont stigmatisés par un auteur hippocratique, par le mot magos.
C'est-à-dire qu'ils sont décrivés comme des magoïdes. Des scènes d'autopsie d'animaux épileptiques ?
Alors, il y a ce qui est intéressant, c'est que justement, une des formes d'argumentation mise en place par le médecin hippocratique est la suivante. On observe le comportement de certaines chèvres qui sont prises par cette maladie sacrée, et donc on évite d'être en contact avec des animaux qui sont susceptibles de tomber sous le coup de cette affection qui terrifiait en fait dans l'imaginaire grec.
Dans les dialogues socratiques repris ensuite par Platon, il y a beaucoup de critique vis-à-vis de la vantardise, de la prétention, des tromperies, des mensonges du magos.
Encore une fois, la vraie cible n'est pas le magos, mais le sophiste. Et donc, Platon se sert de ce vocabulaire connoté négativement pour attaquer les véritables ennemis de la cité, les sophistes, parfois les devins. Et tous ceux qui peuvent nuire au bon fonctionnement de la cité.
Bah dans la République de Platon, il ne fait pas bon avoir été un enchanteur. On n'a même pas le droit d'être enterré correctement.
Tout à fait.
Les cadavres sont congédiés eux aussi, et pas seulement les enchanteurs. Alors, ce que vous nous expliquez, c'est donc que le mot « magos » surgit au 5e siècle. Il faut bien le distinguer de la religion.
Oui.
Et qu'il déplaît aussi à des penseurs qui amènent de plus en plus une réflexion rationnelle. Alors, je vous propose maintenant, ce premier volet de l'exposé étant fait, Marcello Carastro, on va... Je ne suis pas capable de mener la dispute, mais vous-même la menez dans la cité des mages, essayez de présenter des contre-hypothèses. Tous les jours, nous entendons Circé ici. C'est devenu un jeu. La voici interprétée par Céline Chen, avec trois ensembles musicaux dirigés par Garcia Alarcón. On l'entendait brièvement hier dans une émission consacrée à Christine de Suède. Le premier opéra que voit Christine de Suède raconte l'histoire de Circé qui tient sous son charme Ulysse. Ce dont Ulysse, arrivé dans l'île où elle vit, avait été prévenu par le dieu Hermès qui joue un rôle d'intermédiaire entre les hommes et les dieux, c'est traditionnel.
Qui es-tu ? Que fais-tu sur mon chemin ? Tu piques ma curiosité, toi qui connais mon nom.
Ne le prononce pas trop haut dans cette forêt. C'est le domaine de Circé. Sa maison est partout, dans chaque arbre, dans chaque feuille. Toi aussi, elle cherchera à te changer en animal, comme tous ceux qui se sont approchés d'elle. Mais elle ne pourra pas. Elle se souviendra alors que je l'avais moi-même averti qu'un voyageur du nom d'Ulysse à ses rives accosterait un jour, apportant avec lui ce que les déesses ne connaissent pas, quelle que soit leur puissance, les désirs, les douleurs, les sentiments et les élans de tous les êtres humains. Regarde derrière toi. Vois-tu cette plante accrochée au rocher ? Arrache-la. Il faut que tu la manges et le filtre de Circé n'aura plus aucun effet sur toi. Tu le boiras sans crainte, ainsi que bien d'autres l'ont fait avant toi. Circé t'observera, incrédule et stupide. Tu tireras ton épée et tu ressentiras un violent désir de la tuer. Elle aura peur et dans sa crainte, elle t'offrira sa couche en partage. Tu ne refuseras pas, car tu souhaites libérer tes compagnons. Mais fais attention, Ulysse. Songe qu'elle seule peut les délivrer. La fleur ne te protège que contre son sortilège.
Marche de l'Histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Marcello Carastro qui soutenait dans la première partie de cette émission que tout un vocabulaire relatif à la magie, notre thème c'est la magie, est-elle inventée en Grèce, apparaît au 5e siècle. Je suis quand même désolé, votre honneur, là, nous sommes à l'époque homérique, donc bien avant. Et alors, si Circé, avec ses filtres qui retiennent ou qui charment, n'est pas une magicienne... C'est une magicienne, déjà.
Elle le devient. Elle le devient au 5e siècle. le devient avec Aristophane, le devient peut-être après être passé par Hérodote. Je vous rappelle, Hérodote dépeint les Magoi comme des opérateurs du divin un peu particuliers, qui manipulent notamment des pharmacas, donc des mixtures, pour des rituels. Ce qui est étrange aux yeux d'un grec. Alors, mon parti, c'était de partir donc, de l'analyse des conceptions grecques et donc d'une conception indigène de la magie pour éviter de plaquer nos catégories à nous. Donc, mais je suis d'accord avec vous.
Les pharmacas, là, ces plantes-là, oui. Dont il est question dans le chant 10 de l'Odyssée, qu'on n'arrive pas à arracher, qui ont un pouvoir, c'est pas des pharmacas?
C'est des pharmacas, mais tout cela appartient à l'imaginaire religieux. Donc, ça n'a rien de magique aux yeux des Grecs. Ça va devenir connoté, ça va devenir un élément connoté négativement à partir d'un certain moment, c'est-à-dire à partir où il y a différentes formes de savoir qui s'affrontent, c'est-à-dire au 5e siècle. Chez Homère, les choses vont différemment.
Vous nous expliquiez tout à l'heure que Homère, vous le retrouviez dans les récits que vous entendiez au Burkina Faso, c'est un topos de l'ethnologie que de distinguer religion et magie. Revenez un instant là-dessus pour que ce soit bien clair, Marcelo Carastro.
Vous avez raison, c'est la question centrale au fond. La magie est toujours pensée comme quelque chose qui n'est pas. Quelque chose qui n'est pas de la science, quelque chose qui n'est pas de la religion. Et dans cette tradition de pensée, effectivement, la magie recouvre un domaine qui varie suivant les critères que nous utilisons pour définir voilà, les phénomènes rituels, les pratiques rituelles, etc. Or, si nous décidons d'abandonner cette approche que je définis d'ontologique, si nous décidons de ne pas considérer la magie comme un mode de pensée, qui est valable pour tout espace, toute culture, en tout temps, en tout lieu, si nous décidons de faire une histoire culturelle de la magie, alors là, on va voir que c'est en Grèce que la magie naît, c'est à Rome qu'elle est développée, et que dans cette tradition culturelle, nous sommes héritiers en fait des conceptions antiques, même s'il y a des malentendus entre les Grecs et nous.
Oui, alors, je veux bien aller sur votre terrain, donc elle naît en Grèce, on parlera de Rome dans un instant, mais vous nous dites le 5e siècle. Alors, l'ethnologue que vous êtes, le philologue que vous êtes, aime bien aussi l'archéologie, s'intéresse à toutes sortes d'objets qui existent par milliers, je parle des tablettes de malédiction, en Grèce avant le 5e siècle.
Eh oui, je vois votre goût pour la controverse, allons-y. Il est vrai qu'il y a des objets en plomb de forme rectangulaire ou circulaire sur lesquels on écrit des mots malveillants pour lier les actions de ses adversaires dans un procès ou alors pour empêcher son concurrent de vendre plus de poterie que soit. Donc, effectivement, il y a des objets que nous assimilons à des pratiques type vaudou, ce qui se fait aussi dans notre milieu savant. Mais en fait, qui relève d'une pratique tout à fait ordinaire dans les cités grecques et qui relève encore une fois de modes d'action qui mélangent le technique au religieux. Il n'y a rien de magique en cela. Alors, on peut les appeler pharmaca aussi, ces objets-là. Ces objets qui doivent lier à l'aide donc, d'instances divines qui sont appelées, invoquées, auxquelles on offre aussi des sacrifices.
Ça s'appelle la ligature. Au 5e siècle, on aime bien la controverse, enfin le dialogue socratique au moins, mais est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que ce sont d'autres? Il y en a qui rêvent de ligaturer l'adversaire, qu'il soit complètement lié, pieds et poings, et à votre merci.
Absolument.
Les deux versants de l'homme.
Absolument. À partir du 6e siècle, on voit bien qu'il y a production donc, de ces objets rituels. Les archéologues continuent à en trouver une grande quantité. On a des milliers de tablettes aujourd'hui, pas toutes étudiées, pas toutes analysées. Mais ces objets-là sont présents dans le monde grec, font partie du quotidien des Grecs.
Alors, à ceux qui sont curieux des tablettes et aussi des formules de protection, l'exposition de Moulin qui ouvre après-demain consacrée à la magie dans l'Antiquité grecque et romaine en présente de nombreux exemples. Il y a quelque chose qui ne marche pas quand même dans votre système, c'est que à Rome, la magie va apparaître à son tour, tardivement, et qu'elle va être accusée de venir d'Orient, de Grèce peut-être, et aussi d'autres endroits plus lointains. Voici dans le feuilleton Rome d'Arte, bien connu, le chef des augures fort mécontent.
Il y a même des hommes si peu avisés qu'ils vous diront qu'un oiseau blanc dans le cadran sud n'est signe ni de bon ni de mauvais augure. Voilà les innovations des barbares de notre époque. Des barbares. On pourrait entendre des Syriens.
Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Des Syriens, c'est vrai. Mm-hmm. Ou même des Scythes.
En tant que chef des augures, je suis heureux de te l'entendre dire. J'avais cru comprendre que tu étais un homme aux idées modernistes.
C'est absolument scandaleux. Non, je pense au contraire que la religion est l'apanage de nos nobles prêtres. Et de simples soldats comme moi ne doivent pas s'en mêler.
Ah, c'est très gratifiant.
C'est quand même curieux parce que Sophocle ou les auteurs du 5e siècle, vous nous les décriviez comme critiquant le magos. Et on va entendre Pline l'Ancien, dans le genre scrognonieux, à Rome, critiquer le magus, parce que le mot est apparu tardivement à Rome aussi.
Absolument. Pline l'Ancien, grand encyclopédiste du 1er siècle, évidemment, il écrit une œuvre dans laquelle on parle de tout, et on parle aussi de magie. On parle de la magia, mais cette magia n'est pas celle qu'on attend, encore une fois. Donc, je vais bien continuer dans notre controverse en vous rappelant que il ne faut pas penser la magie dans le monde ancien comme l'opposé de la rationalité. Il y a plusieurs formes de rationalité. Donc Pline l'Ancien va condamner la magie et en même temps, il va dire qu'elle vient de l'Orient. Et en même temps, il va nous rappeler toute une série de recettes magiques au cas où.
Il ne fait pas drôle être enchanteur dans la République de Platon. Il ne fait pas drôle être magus dans la République romaine.
Absolument. Il y a une législation romaine qui se développe autour de ces phénomènes-là, mais les enjeux sont différents. Alors que dans les cités, il n'y a pas un pouvoir qui veut contrôler la prolifération des écrits sur la divination, sur le futur des gouvernants. À Rome, les choses vont différemment, et notamment c'est avec l'Empire qu'on verra à quel point la législation se développe pour éviter qu'on connaisse trop du futur de l'Empereur.
Alors, une dernière question peut-être un peu compliquée. Marcello Carastro, on a parlé de Moulin, l'exposition, on a parlé de l'excellent éditeur de Grenoble, Jérôme Milon, chez qui vous travaillez. Et quand vous êtes au Burkina Faso et que vous confrontez là, ces réflexions qu'on a eues très sommairement ici, est-ce que vous voyez là-bas ?
Ce que je vois, c'est que la notion de magie est tout à fait inadaptée pour décrire les phénomènes. C'est-à-dire qu'on parle de pratiques religieuses et différentes formes de pratiques religieuses. Il y a une pluralité confessionnelle, en plus au Burkina. Et on voit très bien que dans un pays très ouvert comme il est, en Afrique centrale, en Afrique occidentale, différentes formes de religiosité coexistent dans la même famille et même chez les mêmes individus. Donc on peut offrir un sacrifice à une puissance qui protège la maison et en même temps, bon musulman ou bon chrétien.
Vos interlocuteurs là-bas savent que vous êtes un passionné de la Grèce, vous leur en parlez ?
Oui.
Et ils vous questionnent sur tous les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui ?
Il y a souvent des échanges fabuleux, puisqu'il y a une grande curiosité. Il ne faut pas imaginer que nos interlocuteurs sont juste des informateurs. C'est des gens comme vous et moi qui sont curieux de ce qui se passe ailleurs.
Merci à vous. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Ludovic Asselot, la préparation Franck Olivard, Marion Philippe, Ilinka Negulesco et Frédéric Martin.